Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À 2 heures de route au sud-est de Toulouse se trouve l'abbaye de la Grâce, un écrin de prière au milieu des corbières. Une abbaye fondée au haut Moyen-Âge où vivent aujourd'hui 35 chanoines réguliers de la Mère de Dieu. Une abbaye plantée ou presque au milieu des jardins pour travailler, se nourrir et contempler. Voilà, cette émission Vivante Église, comme parfois en extérieur ou presque ce matin, donc depuis l'abbaye de la Grâce, dans le diocèse de l'Aude. Nous sommes ce matin avec le père Emmanuel Marie, qui est père abbé de cette abbaye. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et le père Ambroise, qui est chanoine donc de cette abbaye, l'abbaye de la Grâce, et jardinier. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Je précise que nous devions être dans un jardin, mais que comme il y a de l'orage, nous faisons ça dans un parloir. Alors peut-être que ça résonne un petit peu, ce devait être les oiseaux, mais les oiseaux aujourd'hui sont restés dehors. Et surtout, nous sommes restés dedans. Je me suis dit qu'évidemment, le premier propos de cette émission, enfin un des propos, c'est de faire connaissance avec cette communauté. Alors comme vous n'êtes pas très loin de Toulouse, mon petit doigt m'a dit que vous étiez connu de certains, que même certains sont accompagnés, trouvent ici des conseils spirituels avisés. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer tout simplement par décrire le lieu ? Imaginons qu'on se promène comme ça en hélicoptère. Comment vous décririez ce lieu ? Je disais comme un écrin de prière au milieu de jardins. Qu'est-ce que vous diriez, Père Emmanuel Marie ?
Je dirais dans l'axe de la rivière de l'Orbieu, où est levé à la fois le village médiéval et l'abbaye. Vous voyez d'un côté le village, de l'autre côté de l'abbaye, orienté vers le sud, dans l'axe qui nous mènerait jusqu'au mont Canigou. C'est une vallée belle et grasse, la Grâce.
Rive gauche, rive droite, c'est ça dans le village, si j'ai bien compris ?
L'abbaye est sur la rive gauche, le village est sur la rive droite.
Voilà. Qu'est-ce que vous ajouteriez, Père Ambroise, cette vue d'hélicoptère ?
Alors peut-être pour du coup rebondir sur la question des jardins, beaucoup de vignes dans cette vallée, beaucoup de jardins aussi, quelques arbres, des collines plutôt arides avec du maquis, de la garrigue, beaucoup d'oliviers aussi. Bref, le climat méditerranéen, auquel il ne manque ce matin que le soleil.
Et vous me disiez qu'il n'y avait pas souvent d'orage pourtant ici.
Pas souvent, mais quand même.
Alors, cette abbaye ne date pas d'hier, si je puis dire. J'avais souvenir, étant passé ici, de votre nef qui est, frappante. Cette abbaye a été fondée au 7e siècle. Est-ce que vous pourriez nous raconter les débuts et puis ce qu'il reste peut-être de cette toute première période ? Y a-t-il encore des bâtiments qui datent de cette époque ? Père Emmanuel Marie, qui a fondé cette abbaye ?
Une charte qui date des années 779 environ nous montre que c'est Charlemagne lui-même, roi et non pas encore empereur, qui fonde l'abbaye. Il installe des ermites qui vivaient dans des rochers au-dessus de la vallée pour fonder une abbaye qui va servir la réforme carolingienne, c'est-à-dire une grande réforme qui implante des monastères dans tout le royaume.
Et pourquoi Charlemagne a eu l'idée de fonder cela ici ? J'ai vu dans un livre intitulé « Vers la cité de Dieu » qui raconte un petit peu, enfin qui fait un parcourir à gros traits la vie de cette abbaye, qu'il serait arrêté en fait rentrant de guerre contre les morts. Il s'arrête sur la route et il trouve dans cette maigre vallée sept ermites nimbés d'une aura de lumière. Donc il y avait déjà des ermites ici et une vie de prière, c'est ça ?
Oui, il y avait des ermites, dit la légende. Mais il semble bien que ce soit historique. Celui qui guidait cette communauté, Nymphridus, d'ailleurs devenu premier abbé de la Grâce, deviendra aussi archevêque de Narbonne. Et à partir de cette époque, l'abbaye se développe très vite, Charlemagne l'appuyant pour en faire un centre de rayonnement de la reprise carolingienne du sud de son pays, repris sur les Maures, et un centre aussi de développement du christianisme.
La réforme carolingienne, en deux mots, c'était quoi en fait ? Quel était l'enjeu aussi ?
L'enjeu de la réforme carolingienne, c'était d'implanter l'ensemble de la politique de Charlemagne sur l'ensemble de son royaume, puis de son empire, et d'y associer très nettement à la fois les moines et les chanoines.
Alors j'ai cru comprendre qu'il est attribué une dédicace miraculeuse. Alors est-ce que ça fait partie de la légende ou pas? Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter, frère Ambroise, là-dessus?
Alors il y a une légende qui a été écrite beaucoup plus tard que Charlemagne, au XIIe siècle, qui dit que lorsque Charlemagne est par là, donc on construit l'église abbatiale assez vite, puisque toute son armée y participe, et que la veille...
Assez vite, c'est en combien de temps?
Quelques jours, hein, puisque toute l'armée est là pour porter les pierres. Ah, donc, oui. C'est ce que dit la légende. Hein.
D'accord, vous me rassurez.
Oui. La veille de la dédicace, donc la cérémonie de consécration de l'église, une cérémonie très importante, la plus longue qui puisse avoir lieu dans une église, Charlemagne est réveillé par un bruit à la fin de la nuit. Il s'approche de l'église et il voit le Christ entouré des anges et des saints qui consacrent en personne l'église. Alors il va réveiller sa cour, tout le monde arrive, on ne voit plus personne, mais il y a sur les murs les traces d'huile consacrée qui marquent que l'église a bien été dédicacée, ainsi que d'autres signes qui montrent que, manifestement, Charlemagne n'a pas rêvé. Depuis cette époque, ou depuis la légende, on pense, on croit que l'abbatiale a été effectivement consacrée par le Christ.
Comprenne qui pourra. Il faut venir peut-être ici pour avoir le fin mot de l'histoire. Si on parcourt l'histoire de cet abbaye, alors l'idée c'est pas de parcourir ça dans le détail, mais j'ai vu, peut-être j'avance à trop grands pas, vous me reprendrez, qu'au XIIe siècle, c'est l'une des abbayes les plus puissantes du Sud-Est, qui occupe en tout cas la première place dans le Languedoc, et qui s'étend de manière considérable, j'ai vu, entre d'Albi à Saragosse. L'un ou l'autre, je sais pas, Père Ambroise ou Père Emmanuel-Marie, qu'est-ce que vous diriez de cette croissance? C'est une croissance continue entre la fondation et le 12e, et le 12e, c'est l'apogée, en fait.
On peut plutôt dire qu'il y a plusieurs phases, soit de croissance, qui alternent avec des moments, au contraire, de décadence. Le mot est beaucoup trop fort, ça n'a jamais été complètement le bazar ici, mais d'essoufflement de la communauté, en particulier parce que, lors des phases d'expansion, de développement et de croissance, l'abbaye est dotée, c'est-à-dire que des fidèles laïcs veulent être sûrs de la prière des moines et donc leur donnent des terres, des biens. Ces biens, les moines s'engagent à les gérer, de même qu'ils s'engagent à prier jusqu'à la fin des temps, si c'est possible, pour les bienfaiteurs.
Donc vous avez encore trace de bienfaiteurs pour lesquels vous priez?
Exactement, et on a d'ailleurs dans le cloître un bienfaiteur médiéval qui est encore enterré, qui n'a pas été déplacé au moment des modifications de sépulture, etc., mais il y en a des traces, effectivement, et des actes notariés le mentionnent. Il s'avère que ces biens matériels, parfois considérables, sont une très lourde charge à porter pour la communauté, puisque des moines doivent s'en occuper, doivent aller gérer ces terres, etc., et que cette activité économique finit par prendre parfois le pas sur la quête de Dieu, qui est l'objectif et la vocation de la vie religieuse.
Si on avance à grands traits, qu'est-ce que vous diriez si, avant la Révolution française, peut-être, y a-t-il des choses à noter? J'ai compris qu'à partir du XVe siècle, ici, c'est commencé une période un petit peu de déclin. Qu'est-ce que vous diriez, Père Emmanuel-Marie?
Je crois qu'il faut affirmer que toute communauté religieuse vit, comme les familles ou comme les sociétés, avec des périodes de croissance et des crises. Et l'abbaye n'est pas exempte de ces crises et de ces réformes. Il y a eu une très belle réforme au XIIIe, XIVe siècle, puis des périodes moins fécondes. Une des grandes réformes se situe au XVIIe, XVIIIe siècle, sous l'égide des moines dits mauristes de Saint-Maur, qui reprennent l'abbaye dans les années 1660 et vont lui donner un grand élan. En particulier, à partir du XVIIIe siècle, ils reconstruisent des bâtiments dans le style classique, ce que vous avez pu voir de votre vue d'avion. Donc
c'est des bénédictins, en l'occurrence?
Ce sont des bénédictins, une race nouvelle, assez austère d'un côté, très fidèle à la règle, très intellectuelle. Ils ont ici beaucoup travaillé, ils ont accompli des travaux intellectuels de belle envergure. Un homme comme Mabillon, le moine Mabillon, a donné son nom à la fois à une station de métro à Paris et à un restaurant universitaire, si vous avez été universitaire à Paris.
Et oui, il se trouve que j'ai été universitaire à Paris. Donc il y a une vie monastique ici, ininterrompue, jusqu'à la Révolution française?
Oui, tout à fait. Les moines sont chassés en 1792, ce qui est très tard pour la période, puisque les habitants du village demandaient à ce qu'ils puissent rester. En effet, ce sont les moines qui s'occupent des pauvres. Et les habitants de la Grasse écrivent à Paris en disant « Si vous chassez les moines, qui va s'occuper des pauvres ?» Donc, malgré toutes ces démarches, les religieux bénédictins, donc qui ont occupé l'abbaye pendant un peu plus de 1000 ans, finissent par quitter la grâce et ne sont pas revenus.
Et ne seront pas revenus avant le XXe siècle, si j'ai bien compris, puisque donc il y a eu trois familles qui se sont succédées, si je puis dire, famille spirituelle, fille de Notre-Dame des Sept Douleurs, la théophanie de Saint-Guillaume-le-Désert, communauté nouvelle qui depuis, je crois, s'est arrêtée. Enfin, vous allez me corriger. Hein. Et en tout cas, vous êtes arrivé en 1997, c'est ça ? Remettez peut-être les choses en ordre, si vous le souhaitez.
Plus exactement, depuis la Révolution française, il y a eu des périodes assez douloureuses où des privés ont occupé l'abbaye. Elle a été scindée en deux. Puis, à la fin du XIXe siècle, une très belle communauté de sœurs hospitalières ont fondé ici un hospice qui a rayonné sa charité dans toute la région et a laissé une très belle empreinte de bonté, de service des autres. Puis elles ont dû partir parce que le bâtiment n'était plus adapté à un accueil sanitaire et hospitalier. Une communauté dite nouvelle a repris pendant une douzaine d'années le lieu, vivaient des religieux, des religieuses, des parents avec des enfants. Ça s'est terminé dans les années 90. Un privé a suivi, un Allemand, qui voulait faire ici un centre mi-yoga, mi-ésotérique, qui a vécu encore 10 ans, et donc c'est une grande période, avant notre arrivée en 2004, de joie et de tristesse, et de malheur pour le bâtiment aussi.
2004, pardon, autant pour moi. J'ai lu donc toujours dans ce petit ouvrage, là, Vers la cité de Dieu, que vous considériez, enfin vous dites en tout cas les choses comme telles, qu'au début c'était pure folie, que les bâtiments étaient dans un état assez délabré et que la température avoisinait les 6 degrés. Racontez-nous peut-être à gros traits l'épopée des débuts quand vous êtes arrivé ici, donc en 2004.
En 2004, il est vrai, là, l'abbaye était en mauvais état puisque notre prédécesseur vivait tout seul, donc il n'avait jamais entretenu les toitures, les charpentes, tout était termité. Il y avait des fuites d'eau par centaines dans les combles. Les carreaux, beaucoup de carreaux étaient cassés. Or, c'est une région de vent. Il faisait donc très, très froid dans les galeries. Nous avons eu un ou deux hivers assez, assez pénibles, mais nous avions 14 ans de moins.
Vous êtes arrivé à combien, du coup ?
Nous étions une bonne vingtaine. Et nous vivions parfois deux ou trois par pièce. On avait installé des cellules même dans les couloirs. On faisait la vaisselle dans une baignoire. C'était un vrai camping.
En tout cas, l'abbaye a été très largement restaurée. C'est un lieu aujourd'hui absolument magnifique. Où se mélange quel type du coup d'architecture ? L'essentiel que l'on voit est Renaissance, c'est ça ?
Alors non, plutôt classique pour la partie qui est occupée actuellement par la communauté, avec des bâtiments qui datent surtout du XVIIIe siècle ou fin XVIIe. Ensuite, il y a quelques parties médiévales, dont l'abbatiale, que vous avez vu tout à l'heure, magnifiquement éclairée le matin, illuminée par le très grand vitrail, très lumineux. Et quelques parties qui sont aussi plutôt médiévales ou renaissance pour la fameuse tour qui domine le village, qui est le bâtiment emblématique du village.
C'est une vidéo qui m'avait trompé, Renaissance. Je vois toujours dans ce livre une phrase que l'on trouve, je crois, dans un des escaliers de la communauté. « Fais silence, car si tu parles, le verbe se taira. Écoute, écouter et se taire, c'est ainsi qu'on va au-devant du verbe. » Alors on pourrait dire ça peut-être de toute communauté religieuse. Comment vous présenteriez les chanoines réguliers de la Mère de Dieu, Père Emmanuel Marie ? Donc déjà, chanoine, tout le monde ne connaît pas. Et puis peut-être les spécificités de votre sensibilité liturgique.
Alors, la très belle citation que vous venez de donner est de saint Augustin, qui est notre fondateur. Il a fondé, donc au IVe siècle, les religieux chanoines, un ensemble de prêtres qui vivent en communauté avec cette règle de saint Augustin qui doit harmoniser à la fois la vie pastorale, la vie communautaire, la vie liturgique et donc la vie contemplative. La citation que vous donniez exprime cette part contemplative que nous voulons avoir, qui est la manière de nous ressourcer, la manière de nous plonger en Dieu pour le donner à l'extérieur dans nos apostolats qui sont très divers.
Donc ça veut dire une partie contemplative, une grande partie qui est une vie en fait communautaire, mais vous avez des apostolats à l'extérieur, c'est ça la particularité des chanoines ?
Tout à fait, les chanoines peuvent servir des paroisses, ils peuvent être hospitaliers comme les chanoines du Grand Saint-Bernard, ils peuvent s'occuper de collèges comme les chanoines de Saint-Maurice d'Agone. Ce sont nos cousins germains, nous avons une pastorale assez variée, nous aidons à la fois le curé sur la paroisse, pour toutes ses œuvres et sa mission. Et puis nous avons d'autres apostolats plus divers, toujours en communion avec le diocèse, en communion avec notre évêque. Selon ce qui nous est donné, on peut accompagner des groupes de jeunes, des pèlerinages, nous allons dans les maisons de retraite, en soins palliatifs, en cancérologie, nous nous occupons aussi des équipes Notre-Dame. Vous voyez un panel qui doit répondre aux besoins de l'Église.
Et vous recevez aussi beaucoup de monde, je ne sais pas combien y a-t-il de visiteurs ici qui passent, vous sauriez dire, à gros traits.
Il me semble qu'on enregistre à l'heure actuelle environ 10 000 visiteurs par an à l'abbaye, dont 12 000 dont un grand nombre sont des gens qui viennent en particulier pour les offices, la messe, mais aussi des rencontres avec des prêtres, un accompagnement, des préparations au mariage et des retraites, des séjours pour vivre aussi avec la communauté à son rythme, profiter de la liturgie et puis du cadre.
Alors, ma langue a ripé, tout à l'heure, j'ai dû dire que vous étiez des moines, donc ce n'est pas le cas, il y a une différence majeure. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre vie contemplative, Père Emmanuel-Marie?
Oui, effectivement, les chanoines ne sont pas des moines, même si saint Augustin, lorsqu'il parle de moine, qui vient du mot monos, il dit « vous êtes des moines parce que vous devez être dans l'unité ». Et ce qui fait vraiment la force et le charisme des chanoines, c'est d'essayer de témoigner de cette unité en communauté, d'en faire comme un reflet de l'unité de la Trinité, de donner à voir quelque chose du mystère de l'unité de l'Église.
Quelle est votre vie monastique, liturgique? Vous levez au même horaire que les moines bénédictins, vous avez autant d'offices, comment arrivez-vous peut-être à concilier la vie contemplative et ces apostolats intenses que vous décrivez?
Alors je pense qu'il y a quand même une grande unité dans cette vie pastorale commune, c'est qu'elle se réalise d'abord dans la liturgie célébrée en commun, qui est à la fois le lieu de maximum recentration sur Dieu, puisque nous sommes tous là autour du Christ présent dans l'Eucharistie, sur l'autel et dans nos frères aussi, mais aussi un lieu profondément d'accueil et de service des fidèles, des prochains qui viennent, nombreux.
Répondez à ma question, juste. Oui, il ne s'agit pas de détailler le...
Alors nous avons effectivement les offices comme les moines, comme vous dites, qu'on appelle les offices canoniaux d'ailleurs, qui nous rassemblent 6 fois par jour, la messe aussi, et pour les prêtres parfois d'autres messes. Nous avons la lecture divina, l'oraison, des temps de prière plus personnels, mais en particulier c'est très axé quand même sur la liturgie, donc une prière vraiment commune et ouverte aux fidèles.
Comment fait-on pour trouver du temps pour les apostolats au milieu de ça? On est dispensé d'office quand on va visiter des malades en soins palliatifs ou autres?
Oui, tout à fait, la règle doit avoir sa souplesse, la dispense fait partie de notre vie. On ne peut pas tout faire. Néanmoins, il est très important pour un chanoine de garder dans sa journée des temps de vraie contemplation qui le ressourcent et qui lui permettent aussi de se former. Parce que la contemplation est aussi une contemplation de la vérité qu'on doit donner aux autres.
Quand on va sur votre site internet, on voit qu'il y a... vous précisez deux choses sur la spiritualité des chanoines de la grâce, c'est la place dévolue, vouée à la Vierge Marie, et la place aussi faite à Saint Jean l'Évangéliste. Cela éclaire votre nom, chanoine de la Mère de Dieu. Est-ce que vous pourriez expliciter peut-être ces deux attentions, Père Emmanuel-Marie?
La Vierge Marie a une grande place, oui, dans notre vie. Je crois qu'on le doit, entre autres, mais pas seulement, à saint Augustin, pour qui la Vierge Marie était le modèle de l'Église. L'Église doit être comme Marie, mère. Elle doit être vierge, elle doit être pure, elle doit être associée à la rédemption. Et une communauté comme la nôtre doit ressembler à Marie. Elle doit être mère, accueillir ici les fidèles comme une mère, avec délicatesse, attention. L'abbaye doit être pure dans la foi qu'elle donne, elle doit être aussi associée à la rédemption, d'ailleurs essayer d'aider les autres pour les gagner au sang et à la beauté du Christ. Et puis Saint Jean, parce que Saint Jean est un modèle d'apôtre, un modèle d'homme qui a vécu auprès de la Vierge Marie aussi, un modèle de contemplatif et bien sûr un prédicateur puisqu'il était apôtre.
Comment ne pas poser aussi une question sur votre, particularité, la particularité de votre spiritualité? C'est-à-dire que quand on vous connaît de loin ou quand on assiste à vos offices, on vous nomme comme traditionaliste. Est-ce que c'est un qualificatif qui vous va? Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? Après, peut-être 2-3 autres questions pour lever quelques ambiguïtés ou réserves que pourraient avoir certains de nos auditeurs. Qu'est-ce que vous acceptez-vous ce qualificatif déjà ou
non, tout à fait. Je pense qu'il faut simplement dire nous sommes catholiques. Comme tout catholique, nous avons une forte notion de sentiment de la tradition, Église et tradition. Si nous célébrons la messe en forme extraordinaire, ce qui veut dire pour les non-spécialistes, avec beaucoup plus de latin surtout, et une messe orientée vers l'Orient, c'est d'abord avec l'autorisation de l'Église, avec même l'appui du Saint-Siège, en communion avec notre évêque, et parce qu'il nous semble aussi que cette forme de liturgie, avec beaucoup, qui prend beaucoup, qui tient beaucoup aux grégoriens, va très bien avec cette abbaye de la Grâce. Elle est dans son jus, si je peux me permettre une expression un peu vulgaire. Les pierres résonnent d'une liturgie qui les a habitées pendant des siècles.
Qu'est-ce que vous diriez peut-être à ceux qui ne sont pas familiers de cette liturgie ou qui, pardon, hein, mes questions sont grossières, mais qui ont du mal avec ce type de liturgie, vous qui vivez de cette liturgie, qu'est-ce qu'elle recèle comme trésor qui peuvent aider à contempler, à chercher, à trouver Dieu ? Qu'est-ce que vous diriez, Père Ambroise ?
Alors peut-être de venir et de voir. Simplement, de pas forcément essayer de tout suivre ou tout comprendre, mais d'abord de goûter une ambiance, de se laisser porter aussi par une prière qui est certes élaborée et qui a un aspect complexe, mais qui est aussi là vraiment pour que le fidèle puisse prier dans son cœur. Il y a des parties qui certes ne sont chantées que par les frères, certaines parties qui ne sont en silence. À ce moment-là, je peux intérioriser, je peux aussi exprimer dans un cœur à cœur avec Dieu. Eh bien, ce que je porte, ce que je ressens, ce qui parfois me fait souffrir, ou simplement la joie de mon intimité avec Dieu. C'est une grande richesse de la forme extraordinaire de permettre en fait à chacun de trouver aussi sa place dans le face-à-face avec Dieu, avant d'être un face-à-face avec les hommes.
Qu'est-ce que vous diriez pour compléter, Père Emmanuel ?
Oui, je pense que nous, ici, à la Grâce, nous essayons de vivre cette liturgie traditionnelle dans l'esprit de la Constitution sur la liturgie de Vatican II, c'est-à-dire en donnant une place de participation active aux fidèles pour les inviter à chanter avec nous. Nous avons des chants en français assez nombreux qui permettent d'éviter un trop grand décalage avec ce qu'ils vivent dans les paroisses. Et donc de les habituer à cette liturgie qui a certes beaucoup d'expression du sacré, mais aussi une capacité à pacifier.
Pardon de la trivialité de ma remarque avant qu'on fasse une première pause, mais c'est vrai que quand on assiste à votre liturgie, on peut trouver qu'il y a beaucoup de gravité dans une telle liturgie. J'ai souvenir d'un grand spirituel, dont je ne donnerai pas le nom parce que je suis un peu du nom exact, qui parlait à propos de la joie chrétienne, de la grave allégresse. Est-ce que pour vous, quelque part, là aussi, la beauté de cette liturgie qui peut paraître hermétique de prime abord à certains, ou un peu austère, vous retrouvez dans ce qualificatif de grave allégresse, ou est-ce que ça vous semble...
Oui, il me semble que le binôme est assez joli, comme on parle de la sobre ivresse de l'esprit, selon saint Ambroise, d'allier le mystère de Dieu, parce que le mystère de Dieu est tellement grand qu'on peut dire qu'il est grave, avec la simplicité des gestes que nous faisons. Il me semble que rentrer dans ce mystère-là, dans cette apparente antinomie, c'est trouver quelque chose de la gravité de notre existence terrestre et chrétienne.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parler jardin, pour prendre un peu l'air. L'orage, je crois, s'est arrêté, mais on ne va pas pouvoir déplacer les studios. Donc charge à vous, Père Ambroise, de nous promener toujours dans cet hélicoptère virtuel pour nous promener dans les jardins. Et puis surtout, de manière, j'allais dire, moins triviale. Mais en fait, tout est lié, c'est ce que vous allez nous expliquer. On verra évidemment quelle lecture spirituelle on peut faire des jardins dans un monastère et dans les Écritures. Thank you.
Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, ce matin, pour rappel, si vous nous prenez en cours de route depuis l'abbaye de la Grâce, dans l'Aude, où nous sommes avec le père Emmanuel Marie, père abbé de cette abbaye, et père Ambroise, tous deux donc chanoines réguliers de la Mère de Dieu, et le père Ambroise est le jardinier, pour cette émission Abbaye de la Grâce, ces jardins qui élèvent l'âme. On s'est dit même que ça pourrait peut-être devenir une série d'aller dans les abbayes pour parler jardin. On verra un petit peu plus tard au fil des émissions Vivante Église. Comme je le disais avant cette pause musicale, père Ambroise, est-ce que vous pouvez nous aider à nous promener dans ces jardins ? On s'était dit, donc, pour rappel, qu'on se mettrait à l'extérieur, et puis aujourd'hui, ça n'était pas possible. Vous avez eu la gentillesse de me faire faire une visite tout à l'heure. Pour commencer, il y a tout simplement, on va partir du bas, c'est ce que je disais en introduction de l'émission, des jardins pour travailler, se nourrir et contempler. Vous avez donc une partie de jardin potager. Alors décrivez-nous peut-être ce premier jardin.
Ah oui, tout à fait, Emmanuel. Nous avons un jardin potager. Il a été commencé il y a un peu plus de 4 ans maintenant, avec en particulier un frère ancien maraîcher qui s'est beaucoup investi, le frère Bernard. Ce potager essaye d'être raisonné, mais aussi biologique, avec également une grande partie d'apport des travaux récents de la permaculture.
En deux mots, la permaculture, pour ceux qui ne sont pas des initiés. Alors, je sais qu'on en a certains chez nous. On va dire que du côté de l'Ariège, tout le monde connaît, mais peut-être en Toulouse-Centre-Ville, tout le monde ne connaît pas.
Oui, bien sûr. La permaculture est une démarche agronomique qui s'est développée, qui est en fait très ancienne. On en a parlé tout à l'heure, puisqu'elle reprend des éléments des maraîchers parisiens du 19e siècle, mais aussi des éléments d'agriculture beaucoup plus traditionnelle et plus ancienne, dont le principe est en fait, si je résume vraiment à très grands traits, de faire en sorte que l'activité productrice de l'homme s'inscrive vraiment dans le cadre de la nature. Pour cela, par exemple, on apporte le minimum d'engrais pour faciliter la croissance des plantes, on préfère travailler à un enrichissement, un amendement du sol, pour que le sol lui-même devienne plus productif. De même, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, nous avons planté des haies autour de ce potager qui favorisent la présence des insectes pollinisateurs, qui favorisent aussi les prédateurs des animaux dits nuisibles pour les plantes, limaces, souris, etc.
Les prédateurs, en l'occurrence, qui sont
les souris et les crapauds, les couleuvres, tous ces ravissants animaux
dont on se méfie,
vos amis des gens du centre-ville.
Mais qui sont bien utiles.
Tout à fait, exactement. Donc c'est une démarche agronomique qui, en fait, essaye de prendre en compte l'ensemble de la nature, à savoir les animaux qui vont se trouver là par hasard, mais on essaye d'aménager le hasard, le travail du sol en profondeur, et d'éviter aussi, évidemment, la pollution et les apports intempestifs de produits artificiels, chimiques ou autres.
Quelle surface avez-vous donc de cultiver ? Vous sauriez dire, ou c'est quoi ça ?
Actuellement, nous avons
un tiers d'hectare qui est cultivé.
Un petit hectare en tout cultivé qui est réparti en 4 surfaces. Une est en planche permanente, donc ce sont des bandes de terre surélevées, et 3 autres qui sont, on dit, en pleine terre, c'est-à-dire au ras du sol et travaillées du coup en plus grande surface.
Et vous cultivez donc quelques exemples peut-être ?
Alors quelques exemples, tous les bons légumes que fait un bon potager, évidemment salade, tomates, poivrons, aubergines, poireaux, oignons, betteraves, pommes de terre et notre grande réussite, les courges.
Combien de frères êtes-vous à travailler au jardin ?
Au jardin, en tout, nous sommes 5 à travailler vraiment régulièrement. Au potager, il y a donc le frère Bernard qui s'en occupe vraiment, qui suit vraiment le projet et qui est évidemment aidé par au moins 2 frères très régulièrement et par toute la communauté quand il faut pour plantation ou récolte des pommes de terre, des courges, etc. ou autres chantiers d'aménagement.
Père Emmanuel Marie, tous les contemplatifs ne vivent plus de travaux toujours manuels comme ça dans les abbayes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être pourquoi c'était important ? L'abbaye de la Grâce, on imagine, ça ne s'est pas fait sans votre aval. Donc,
Il est vrai que la majorité des jeunes qui rentrent dans cette abbaye veulent devenir prêtres et faire de l'apostolat. Donc on ne peut pas consacrer énormément d'énergie et de temps au jardin. Néanmoins, c'est un lieu à la fois de vie, d'harmonie de vie, le jardin. C'est aussi un lieu qui peut devenir un témoignage. On a voulu faire de ce jardin une expression aussi de ce qu'est le travail, de ce que c'est la vie et l'espérance aussi.
Vous avez ici des néo-ruraux, comme on dit, c'est-à-dire que de plus en plus, vous avez des gens qui se réinstallent à la campagne, qui sont souvent assez jeunes, qui se lancent dans des exploitations de permaculture. Est-ce que du coup, ils regardent un petit peu du coin de l'œil ce que fait l'abbaye de la Grâce? Est-ce que vous avez des échanges avec ces gens-là?
Oui, tout à fait. Nous en avons eu plusieurs. Dans les Corbières, ils ne sont pas très nombreux, puisque c'est un lieu qui est quand même difficile. C'est difficile de trouver des terres facilement cultivables. Mais nous sommes en lien avec d'assez nombreux maraîchers, dont, comme vous dites, plusieurs néo-ruraux qui viennent pour réfléchir, parler, échanger des expériences.
Alors, je vois le temps qui passe. Vous avez aussi des vignes, mais peut-être qu'on va passer dessus, hein, puisque vous nous en direz un mot très rapidement, parce que ce n'est pas vous d'abord qui les cultivez. Il y a deux autres jardins, un jardin médiéval et le jardin du cloître. Qu'est-ce que vous me diriez peut-être sur ces deux jardins, à moins que vous vouliez dire quelques mots peut-être sur les vignes et avant qu'on parle du jardin médiéval?
Alors, pour la vigne, on peut simplement dire qu'effectivement, nous avons acquis une parcelle de vigne dans la vallée de la Grâce. Elle est gérée par un vigneron et ami qui fait du très bon vin blanc à l'étiquette de l'abbaye. Mais nous ne participons nous-mêmes qu'à la vendange et à l'embouteillage.
Ce qui n'est pas le plus facile, c'est la vendange quand même, non?
Tout à fait.
Voilà. Quid du jardin médiéval? Donc vous avez eu la gentillesse aussi de me promener. Hein, pardon, il n'y aura pas de promenade pour cette émission. Peut-être que Marie-Pierre Pavlak, qui fait l'émission Immersion, est-elle déjà venue faire un reportage ici? Je ne sais pas, sinon je lui donnerai l'adresse. Comme ça, il y aura une suite à cette émission. Ce jardin médiéval, donc, quand on sort de votre abbatiale, on se retrouve comme sur un plateau planté comme au lieu, on a l'impression d'un cirque, en tout cas, quand on y est. Est-ce que vous pouvez nous le décrire et nous dire quelle est l'intention de ce jardin?
Tout à fait. Ce jardin a été mis en place dès que nous sommes arrivés ici, en 2004. Nous avons commencé pratiquement tout de suite son aménagement. Il avait comme objectif de proposer à nos visiteurs, qui sont nombreux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un espace justement vraiment jardiné où les plantes médiévales, ce qui est plutôt médicinal, sont mises en valeur. Depuis 4 ans, cet espace est aménagé surtout en fonction d'une thématique de plantes bibliques, puisque à la Grâce, nous avons la chance d'avoir à peu près le même climat qu'en Terre Sainte, pratiquement le même qu'à Jérusalem, si ce n'est que les hivers sont un tout petit peu moins froids ici que là-bas.
Il n'y a pas un peu moins de vent à Jérusalem quand même? C'est...
Tout à fait, effectivement. Mais ça, en fait,
oui, ça, vous ça disiez 300 jours de vent, c'est ça?
Oui, ça c'est les Corbières, oui, ou la vallée de l'Aude. Néanmoins, pour les plantes, ça ne change quand même pas énormément de choses. Mais cette caractéristique climatique nous a permis en fait, d'installer dans notre jardin biblique un certain nombre de plantes mentionnées dans la Bible et de mettre en valeur du coup ces plantes avec les textes bibliques pour permettre aux gens de découvrir que ces plantes qui pour certaines sont très connues, eh bien renvoient aussi à quelque chose de symbolique, à quelque chose de religieux, à un message plus profond que des questions simplement agronomiques ou de production.
Et les touristes s'arrêtent et lisent ces inscriptions dans le jardin?
Peut-être pas tous, mais il y en a pas mal.
Alors, est-ce qu'on pourrait prendre quelques exemples? Par exemple, le cyprès, j'avoue que je ne connaissais pas. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il symbolise dans les Écritures?
Oui, le cyprès est mentionné dans les Écritures à peu d'occurrences, mais quand même, il signifie la fidélité de Dieu. C'est l'arbre qui est toujours vert, qui est toujours dressé vers le ciel, et qui du coup rappelle, pour en particulier le prophète Osée, Dieu qui est présent pour veiller sur son peuple, et qui accomplira son alliance malgré les revers, les velléités et parfois les infidélités de ses fidèles.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve des cyprès dans les cimetières?
Tout à fait. Alors il y a aussi une raison qui est liée à la botanique elle-même. Le bois de cyprès est incorruptible, il ne se pourrit pas ou alors très très lentement. Et donc il est aussi associé à la permanence de l'âme, de même qu'il a une forme de flamme qui rappelle aussi du coup l'âme qui reste et donc nos défunts qui nous restent chers. Et même au cimetière, eh bien, il garde une présence.
Autre exemple, le figuier.
Tout à fait. Alors, autre arbre emblématique.
Vous disiez que pour les chrétiens d'Orient, chrétiens orientaux, ils lisent dans le récit de la Genèse que ce n'était pas un pommier, mais un figuier.
Oui, en fait, le récit de la Genèse ne dit pas quel arbre c'était. Du coup, on peut penser que c'est ce qu'on veut. Comme c'est l'arbre qui signifie la connaissance, en particulier celle de la loi, avec l'exemple de Nathanaël qui méditait assis au pied du figuier.
Donc ça, c'est dans le Nouveau Testament.
Dans le Nouveau Testament, on l'a associé du coup à l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le paradis terrestre. Dans la tradition occidentale, on pense au pommier, puisqu'en latin, la pomme, c'est malus, et du coup, la connaissance du bien et du mal, malus, la pomme. Mais en fait, on n'en sait rien.
Donc, en l'occurrence, en tout cas, cet arbre est signe de la fidélité, c'est ça ?
Plutôt de la méditation et de l'approfondissement de la parole dans son cœur.
Peut-être un dernier exemple, je ne sais pas si je vais le prononcer correctement, le palur.
Le palur, oui, tout à fait. Alors, c'est un buisson qui est assez peu connu, même si on le trouve dans dans certaines régions à l'état endémique, c'est-à-dire qu'il se multiplie tout seul, en particulier sur les bords de route. Donc, c'est un petit buisson extrêmement piquant. Le nom complet est Palurus spinacristi, donc palure épine du Christ. C'est l'arbuste qui a sans doute servi à fabriquer la couronne d'épines. Vous avez pu voir tout à l'heure que les rameaux sont déjà recourbés et garnis de piquants extrêmement farouches. Et donc, comme il se trouve aussi en Palestine, on pense que c'est avec cette plante que la couronne du Christ a été tressée.
Voilà, donc il faut venir aussi pour découvrir ce jardin biblique. Peut-être le jardin du cloître, on va en parler au fil d'un aspect plus méditatif avec vous, Père Emmanuel Marie. Les jardins dans un monastère, peut-être d'abord le cloître, ont, j'allais dire, d'abord une signification spirituelle. Qu'est-ce que vous diriez, si on commence par ce jardin du cloître, qu'est-il censé signifier souvent au cœur d'une abbaye ?
Comme vous le dites, le cloître se trouve souvent le cœur de l'abbaye. Il signifie à la fois l'homme qui marche sur les quatre côtés, à angle droit, et sa vie étant toute tournée vers le ciel. Donc un lieu où les choses de la terre, pour le moine, doivent entraîner vers le ciel. Il rappelle aussi, parce qu'il y a souvent, il y a toujours normalement de l'eau dans le cloître, le premier paradis terrestre, que l'homme va d'une certaine manière retrouver par sa sanctification. Nous allons vers le paradis, nous allons vers la terre promise, et là, il y aura un jardin, puisque dans la Bible, tout commence dans un jardin et tout finit dans un jardin de la Jérusalem céleste.
Alors, vous m'avez fait suivre une méditation qui est de vous, jardin ouvert, jardin clos. Dans la Bible, il y a une phrase. Le jardin est donc par excellence lieu de sacralité par opposition à l'espace naturel chaotique. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être cela et pourquoi est-ce que vous pouvez juste...
Vous avez choisi la remarque la plus complexe de mon étude, mais je vous en remercie.
C'est notre spécialité à nous, journalistes, de poser les questions.
Lorsque Dieu crée l'homme, il le met dans un jardin, et ce jardin a une puissance symbolique énorme. Toutes les civilisations de l'Orient connaissent les jardins en tant que lieu sacré ou quasi-sacré, parce que c'est le lieu de la vie, parce que très probablement les civilisations y reconnaissent une origine, leur propre origine, pas seulement le judaïsme, mais beaucoup d'autres religions. Un lieu où Dieu a gardé et a mis l'homme pour garder le jardin, pour le cultiver, avec en son centre un arbre qui est un arbre de vie que l'homme doit respecter.
Alors j'espère ne pas poser la question qui fâche non plus, mais un petit peu plus loin, si on continue cette méditation, vous dites qu'en fait, après la chute, d'une certaine manière, le sens du jardin est inversé. C'est-à-dire qu'au début, il était là pour signifier l'unité de Dieu. Aujourd'hui, on part quelque part du chaos et on essaye de reconstruire, c'est ça, cette unité.
Oui, il est vrai que lorsque l'homme, symboliquement, donc, est chassé du paradis, cela veut dire qu'il est chargé, il est chassé de son équilibre. C'était le lieu de la communion avec Dieu, le jardin, puisque Dieu venait à la brise du soir parler avec l'homme, marcher avec l'homme. Donc le lieu de la communion s'est brisé, l'alliance est brisée. Les jardins deviennent souvent des lieux de mythologie ou de sacrifices païens. Isaïe, comme d'autres prophètes, invective ceux qui font des immolations d'enfants ou des cultes sacrilèges au pied des arbres. Le jardin donc devient un lieu du refus de Dieu.
Si on continue, il y a dans le jardin, alors j'avais souvenir, ce n'est pas dans votre propos, vous m'avez fait suivre, mais d'une phrase de Jean-Paul II dans un ouvrage de vulgarisation sur sa théologie du corps d'Yves Semaine, pardon de lui faire de la publicité, où Jean-Paul II disait qu'il y a dans le cœur de tout homme comme un lointain écho du premier amour, du premier homme et de la première femme. En est-il de même quelque part avec les jardins ? Est-ce que vous diriez qu'au cœur de chaque homme, il y a comme le... la quête de ce paradis perdu, de ce souvenir d'un jardin premier ou d'une unité première.
Oui, il est tout à fait exact que dans le cœur de chacun, il y a une forme de nostalgie. Et cette nostalgie porte en même temps l'espérance. Nous sommes des nostalgiques du paradis perdu, de cette harmonie où Dieu nous parlait en cœur à cœur, où il y avait la beauté, la vie, symbolisée par l'eau et l'arbre. Et nous, à la fois, c'est le peuple juif qui va devenir un jardin, une vigne, mais en même temps aussi toute âme. Tout cœur humain est un jardin, lieu de la vie, lieu de la rencontre avec Dieu, lieu de la sacralité, lieu de l'espérance aussi, qui est donné par la verdure, les arbres et le mystère de l'eau.
Qu'est-ce que vous prendriez comme exemple dans l'Ancien Testament, peut-être, qui dit cette recherche ou cette quête du paradis, ce paradis perdu ?
Certainement le plus beau texte de l'Ancien Testament qui évoque le jardin comme lieu de nostalgique de l'alliance perdue, c'est le Cantique des Cantiques, où la fiancée est appelée comme un jardin clôturé. En grec, on parle d'un paradisos, donc un paradis. L'âme épouse est une forme de paradis, elle est un jardin clos qui, si elle est fidèle à Dieu, reste pure. La plus belle image que les hommes du Moyen-Âge, les pères de l'Église ont trouvée, c'était de faire de Marie le jardin clos le plus pur, le plus beau. Frangelico, comme d'autres auteurs, ont dessiné, peint des annonciations où on voit la Vierge comme à la fois un jardin dans un jardin.
Vous vouliez citer aussi Isaïe. Qu'est-il dit dans Isaïe à propos des jardins, peut-être ?
Isaïe a beaucoup développé la thématique d'Israël comme vigne. Cette vigne que, dit-il dans ses textes, est à la fois un lieu de fécondité, un lieu d'amour, parce que c'est lui qui doit, Yahvé, la protéger, la clôturer. Et c'est lui qui en est le gardien, c'est en lui qui la garde nuit et jour. Mais si la vigne, c'est-à-dire Israël, n'est pas fidèle, alors Dieu la laisse brûler, la laisse piller par les nations qui entourent Israël.
Peut-être, Père Ambroise, quand vous vous promenez dans les jardins, puisque c'est peut-être vous, en fait, à l'abbaye qui y passez le plus de temps, est-ce que c'est tour à tour des méditations qui vous viennent, à la fois ce paradis perdu, cette quête, la vigne comme signe serait Israël. Est-ce que c'est autant de choses qui vous viennent à l'esprit un peu au jour le jour ?
Alors un peu au jour le jour, je pense aussi à pas mal de choses techniques, évidemment, mais tout à fait, comme vous le dites, le Ernst Jünger, qui était un grand ami des jardins et un penseur profond, a dit quelque part qu'il y a toute la science de l'invisible dans une année du jardinier. Et c'est vrai, voilà, nous sommes en travaillant au jardin, rien qu'en se promenant avec attention dans un jardin, on voit le cycle de la nature, le mystère de la vie, le ciel, rien que ça, c'est déjà pas mal, le fruit de la terre et puis du travail des hommes, d'autant que, comme religieux, on voit aussi qu'il y a un lien entre la terre qu'on cultive, donc c'est un aspect agriculture, la culture aussi humaine de notre communauté, de notre règle, des gens que nous accueillons, et puis le culte envers Dieu. Vous l'avez vu tout à l'heure, tous les jardins de l'abbaye sont en fonction de l'axe de l'église, de l'autel, parce que en fait c'est parce que le Christ Dieu est venu sur terre que travailler la terre trouve son sens. Quelque part, travailler dans son jardin, c'est aussi que l'incarnation aille jusqu'au bout.
Comment ne pas finir ? Je vois le temps qui passe, on aimerait rester avec vous plus longtemps, mais comment ne pas finir, évidemment, par l'évocation des jardins dans le Nouveau Testament ? Vous me disiez, en fait, la vie de... Peut-être pas la vie du Christ, mais enfin, les Écritures commencent dans un jardin et finissent dans un jardin, et un certain nombre de moments clés de la vie de Jésus ont lieu dans un jardin. Est-il... comme vient de le dire le Père Ambroise, celui qui transfigure tous ces jardins, Père Emmanuel Marie.
Oui, tout à fait, Emmanuel. Le Nouveau Testament, avec le mystère du Christ, nous replonge dans un jardin, puisque le Christ affirme lui-même qu'il est la vigne, la nouvelle vigne. Il est celui qui rassemble les promesses qui étaient confiées à Israël. Il est la vigne, il est en même temps aussi le vigneron. La vigne devient le symbole donc de la fécondité, de l'alliance renouvelée. Et puis il y a aussi ces épisodes mystérieux, douloureux ou sublimes, où le Christ les réalise dans un jardin. Vous vous en souvenez, il va prier avec ses amis dans le jardin des Oliviers. Et ce jardin, qui est un jardin clos, puisqu'on dit, l'Évangile nous dit qu'il y entra, et s'il entre, c'est pour communier dans l'amitié avec ses apôtres. Or, c'est là qu'il est trahi. C'est dans un jardin qu'il veut l'amitié, et c'est dans un jardin que Jésus est trahi par Judas. Et puis, donc, à la Passion, il est crucifié, et saint Jean nous dit bien, très précisément, qu'il a été crucifié dans un jardin. Il est mis en terre dans un jardin, et c'est dans un jardin qu'il ressuscite. Le bois de la croix, en quelque sorte, devient le nouvel arbre de vie. Le Christ est sur la croix comme l'auteur de la vie, qui donne le fruit de la vigne, qui est son sang, pour nous régénérer.
Est-ce que quand on se promène dans les jardins, je ne sais pas, y a-t-il une tradition, peut-être ce sera ma dernière question, dans cette abbaye où vous avez des jardins quand même d'une grande beauté, en tout cas situés aussi dans un écrin, de vous promener à la Pâque quelque part comme sentir la présence du ressuscité. Est-ce que, je ne sais pas, ça aide de se promener dans des jardins au moment de Pâques, d'avoir ces jardins, Père Emmanuel Marie, pour rentrer dans ce mystère?
Tout à fait. Personnellement, j'aime marcher le soir après compli un instant dans le jardin, parce que le jardin nous donne un des symboles, un signe de la vie du ressuscité. Et en cette période où le jardin est très vert, avec des fleurs, c'est la beauté qui nous conduit.
Eh ben, merci beaucoup de nous avoir reçus ce matin, presque dans les jardins de votre abbaye, pour cette émission, pour partir à la découverte de ce lieu et de tout ce qu'il peut évoquer et dire de Dieu. Un grand merci. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.